Bienvenue sur la page Bible Espoir. Nous sommes heureux de vous y accueillir et nous vous souhaitons une bonne écoute.
Bonjour à chacun, nous allons ouvrir notre Bible. Si vous voulez bien, j'aimerais partager avec vous une méditation en ce qui concerne les débuts de l'Église première, l'Église que l'on appelle l'Église primitive. Nous allons faire un état des lieux de comment ça se passait dans les premiers temps, dans le premier siècle du christianisme. Alors nous allons nous livrer à une exhortation dont le maître mot est la persévérance. La foi chrétienne perd son sens s'il n'y a pas de volonté de maintenir ce que l'on sait et surtout de le pratiquer. Persévérer signifie demeurer ferme, être constant dans un sentiment, une résolution que nous avons prise, une manière d'être, et continuer dans le temps, continuer à durer. Il nous est simplement, le premier mot de ce paragraphe nous dit ces choses, « Ils, les apôtres, persévéraient ». Et maintenant, faut-il naturellement savoir pourquoi ils persévéraient, quel était l'objet ou les objets de leur persistance. Alors, dans le texte que j'ai choisi pour illustrer notre propos, au chapitre 2 et au verset 42, dans le livre des Actes, donc je rappelle, Actes chapitre 2, verset 42, il y a cette parole, « Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, que l'on appelle la Sainte Cène, et dans les prières. » Et à la fin de notre paragraphe, il nous est dit, « Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. » Il est présenté quatre éléments dans notre récit, ou quatre moyens, si vous voulez, de progrès et de développement que nous pourrions appeler la sanctification pour les chrétiens. Fondements, ce sont des fondements immuables de la foi. Soustraire en partie ces éléments ou les séparer les uns des autres vient amputer le christianisme de l'Évangile. La première proposition qui est faite, c'est la doctrine, c'est-à-dire l'enseignement de la parole de Dieu. La deuxième chose qui nous vient sous les yeux, c'est la communion entre les chrétiens que nous appelons tout simplement une communauté d'amour ou tout simplement la communion fraternelle. Le troisième moyen, c'est ce qui est pratiqué régulièrement dans nos communautés, c'est le repas de Sainte-Cène, c'est la Sainte-Cène. Et puis nous en arrivons au quatrième point, c'est la prière que l'on peut on peut parler d'intercession. Il persévérait, avons-nous lu tout à l'heure, leur foi reposait d'abord sur un élément, quelque chose d'extrêmement solide, c'est l'enseignement. Il persévérait dans l'enseignement, et on ne croit pas naturellement n'importe quoi. Et cette exhortation est valable encore aujourd'hui et ne pensons pas qu'elle soit périmée pour le temps présent et les temps à venir. Et c'est une référence que l'enseignement de Jésus-Christ, l'enseignement du Nouveau Testament, une référence intangible qui implique à la fois la connaissance, savoir, l'assiduité, c'est-à-dire nous y tenir, la vérification de ce qui nous est dit, pas seulement en nous appuyant sur la raison et le bon sens, mais ce que nous enseigne, par-delà les mots et les lettres qui sont contenus dans ce livre qu'est la Bible, mais de pouvoir prier et demander à Dieu qu'il nous éclaire par le Saint-Esprit. Et nous savons que tout cela était un ordre, un commandement de Jésus lorsqu'il dira à ses disciples, c'est son testament spirituel, il leur dira dans l'évangile de Matthieu, « Et enseignez-leur, c'est-à-dire aux nations, au peuple, enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. » Donc, c'était déjà la mise en route, à la fois de l'évangélisation du monde, mais aussi pour ceux qui avaient franchi le pas de la conversion, c'était aussi tout simplement l'édification pour leur développement de leur vie spirituelle. Dans un monde d'innovation en tout genre, les spéculations, et on le sait, et voire même les extrapolations, doivent être aisément discernables et identifiables par un retour de contrôle à la parole de Dieu. Nous sommes dans une société où il y a des gens qui racontent n'importe quoi, il y a des sectes, il y a des altérations, des falsifications du message de la Bible, et nous avons à une manière urgente à nous en préoccuper et de nous en référer à ce qui est écrit, ce que Dieu nous a laissé, et bien là, comme norme, comme tout simplement crédibilité de sa parole, et ce qui doit être dit est obligatoirement vérifié par le fait, parce que un enseignement qui est entendu mais qui n'est pas vécu, ça ne sert pas à grand chose. Il nous est bien dit que il persévérait dans l'enseignement des apôtres. On se serait peut-être attendu qu'il persévérait dans l'enseignement de Jésus-Christ. C'est sous-entendu naturellement. Hein, évidemment, c'est ainsi. Et nous voyons que Jésus-Christ est l'entier fondement. Il nous est dit que la foi a été fondée sur la personne de Jésus-Christ et sur les apôtres qui eux-mêmes ont reçu de Jésus et ont pour mission maintenant de le transmettre, et bien là, partout autour d'eux, jusqu'aux extrémités de la terre. Pourtant, il y a changement de régime. Tous les apôtres en succession, c'est-à-dire les premiers disciples, les premiers apôtres, succession des prophètes et de la dispensation de la loi pour embrasser une nouvelle disposition divine qui est la grâce. Ils sont passés dans le message qu'ils avaient à transmettre, eh bien, de la loi, du rigorisme judaïque, de la loi de Moïse, eh bien, à la grâce. Et c'est ce qui nous est dit d'une manière formidable, eh bien, dans l'évangile de Jean, au chapitre 1er, verset 16. Et nous avons cette parole de la bouche même de Jésus, et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce sur grâce, car la loi a été donnée par Moïse et la grâce par la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Voilà le témoignage qui est rendu d'une manière absolue. Alors, les apôtres sont les dispensateurs maintenant de la doctrine évangélique, qui est une référence, qui est exclusive et elle est définitive. Ce n'est pas la peine maintenant d'y ajouter, d'y retrancher, d'y ajouter quelque chose. Les choses sont scellées et nous croyons que nous pouvons nous reposer en toute confiance sur ce que le message de l'Écriture sainte nous laisse. La négligence ou encore la substitution de la parole de Dieu, que ce soit en prédication ou en lecture, qui peut être en effet mal comprise, ne peut que nous éloigner de la vraie source vitale. La mise en garde est sérieuse. C'est ce qui nous est dit dans le livre des Hébreux au chapitre 2 et au verset 1er, où là nous avons véritablement à être très scrupuleux, très attentifs à ce que nous dit la Bible et la Bible seule. S'ajoute à l'enseignement, conséquence logique de sa compréhension, eh bien l'union. Nous avons commencé par l'enseignement, le fondement, l'assise même. Eh bien, de la foi dans l'Église primitive, c'était l'enseignement des apôtres. La deuxième chose qui est importante et qui est indispensable, dans le monde, sinon c'est la guerre, mais indispensable dans l'Église, eh bien, c'est l'union. C'est-à-dire ce que nous pouvons appeler les rassemblements, les réunions des chrétiens les uns avec les autres. Pour autant que l'enseignement reçu nous ait réconcilié avec Dieu, le résultat spontané, le résultat absolument logique, c'est de nous sentir bien avec ceux qui ont fait la même découverte que nous. Cette expérience de relation porte un nom qui se qualifie d'intimité fraternelle, d'amour fraternel, et ça c'est quelque chose de très fort et aussi de réconfortant. Lorsque nous vivons dans un monde et qu'il y ait des hommes qui viennent, qui sont seuls, qui sont isolés, qui sont malheureux, et lorsqu'ils poussent la porte véritablement d'une véritable église digne de ce nom, et qui là, eh bien, ils trouvent l'amour, ils trouvent de manière des gestes de charité, tout autre chose. Alors ça, c'est quelque chose qui finalement, eh bien, c'est aimez-vous les uns les autres et mettez en pratique, eh bien là, moi, ce que je vous ai dit Jésus, eh bien, ce que je vous ai enseigné. Donc, il s'agit, on pourrait peut-être dire, c'est-à-dire des frères, des sœurs issus d'une même famille, reconnus, qui ont reconnu, eh bien là, un même Dieu qu'eux et qui est leur Père. Hein, parce que Jésus nous dira bien que maintenant, ce n'est plus de dire Dieu, hein, de dire l'Éternel et tous ces noms qui ont rapport au Dieu créateur, mais je vous dis de tout simplement l'appeler notre Père qui est aux cieux, notre Père. La communion n'a rien à voir avec la sélection. Ça, c'est une chose qu'il faut savoir. Dans le monde, tout marche avec la sélection et ce genre de choses. C'est l'accueil sans distinction, par-delà les liens de la chair, de celui ou de celle qui reconnaît en Christ son Sauveur, qui en a fait son Seigneur, qui engage sa volonté à se conformer par obéissance, eh bien, à la personne de Jésus et à ce qu'il nous a dit, c'est-à-dire la parole de Dieu, et dont la vie, le comportement, les paroles sont en accord avec sa profession de foi qu'il a déclarée, dans le respect de ce que font et sont les autres membres. Et nous avons naturellement, eh bien, là dans Philippiens chapitre 2, considérez les autres comme au-dessus de vous. Et c'est vrai que si nous mettons la priorité, eh bien, sur nos frères et nos sœurs, eh bien, c'est vrai que là, eh bien, il y aura naturellement quelque chose de sain et de bon. Ne laissons jamais sous prétexte qu'il faut accepter tout la dégradation des relations fraternelles, qui quelquefois, eh bien, sont un véritable fléau, tels que la critique, l'orgueil, l'ambition et la présomption, et puis bien d'autres choses, eh bien, il faut bien considérer que toutes ces choses que je viens de citer, ce sont des mauvaises choses, sont des saboteurs d'unité. Et lucidité, la clairvoyance est de toujours, comme point de référence, comme point d'observation et tout simplement de repère, qui est la parole de Dieu, qui est la mesure pour apprécier de ce qui est bon ou mal, de ce qui est la volonté de Dieu et de ce qui ne l'est pas. La qualité, voire l'excellence de la communion fraternelle passe par le courage de la vérité, l'authenticité, l'intégrité capable, quelquefois de répression, certes, pleine de prévenance et de respect, et qui doit être, qui n'en est pas moins, eh bien, ferme. De la sainte doctrine à la communion fraternelle, sincère et vraie, dont nous venons de parler, nous parvenons à un troisième élément, celui-ci non moins important, étant la cause de notre foi. La raison de notre foi, la racine de notre foi, en d'autres termes, c'est parce que Jésus est mort pour nous, pour moi, que je vis. Son sacrifice expiatoire me sauve, parce que je le crois. Ce que notre texte nomme la fraction du pain, emblème du don de la vie et du corps de Christ, qui est mort, qui a expié à la croix du calvaire, non pas pour lui, mais pour le monde entier, pour moi, quand je me l'approprie. À l'origine de l'Église primitive, ce que nous appelons le repas de Sainte-Cène, qui est célébré, eh bien là, toutes les semaines, eh bien, ce repas de Sainte-Cène se prenait à l'occasion d'une collation qui réunissait les disciples, où le temps fort était le souvenir de l'acte salvateur accompli une fois pour toutes par Jésus à Golgotha. D'ailleurs, il le dira lui-même, les choses sont explicitées en ces termes, « Faites ceci en mémoire de moi, faites ceci en souvenir de moi, ce que j'ai fait, ce que j'ai donné ma vie, de ce que mon corps a été meurtri, de ce que mon sang a coulé. » Paul d'ajouter, « Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, c'est-à-dire les deux, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Et là, nous avons naturellement, eh bien, tout un programme qui est déployé, dévoilé devant nous, parce que nous savons qu'il y a le phénomène de répéter ces choses, de manger ce pain, de boire cette coupe avec conscience. Et à ce moment-là, nous annonçons que le Seigneur est mort, mais que, eh bien, tout cela, c'est une annonce qui est faite au monde entier, parce qu'il y a cette belle expérience qui s'y attache, c'est-à-dire le retour de Jésus-Christ à la fin des temps. Ce n'est qu'un mémorial, c'est un rassemblement, et c'est aussi à répéter. Le pain symbolise, ou le pain symbole du corps brisé, le sang signe d'une nouvelle alliance, ce n'est plus l'ancienne alliance, l'Ancien Testament, mais c'est le Nouveau Testament, la grâce, c'est la manifestation de l'amour de Dieu, non pas du jugement et de la punition de Dieu, mais c'est la grâce, c'est l'amour, qui est la proclamation de la mort de quelqu'un, et ce quelqu'un est mort pour les autres, et tous les autres, le monde entier, nous dit la parole de Dieu. Et c'est aussi l'attente d'un retour certain, preuve que quelqu'un est mort et qui revient, et ce n'est autre, si nous comprenons bien le sens des mots, ce n'est autre qu'un ressuscité, donc quelqu'un qui est revenu à la vie, donc il est vivant. Notre Dieu, Jésus-Christ, n'est pas un Dieu mort. Il n'est pas là, eh bien là, dans les effigies, dans les statues de plate ou autre chose. Mais il est vivant aussi vivant que nous le sommes. Et lui, il est vivant pour l'éternité. Et il est vivant dans une autre dimension, c'est-à-dire qu'il est saint et il est sans péché, naturellement. Toute l'espérance de l'Église de Jésus-Christ est ici d'autant que, dans l'attente de son retour, nécessité pour chaque chrétien engagé, chaque chrétien déclaré tel, le repas de Sainte-Cène est le ressourcement par excellence de sa foi. Faites ceci en mémoire de moi, et c'est à chaque fois une coupe de bénédiction, une coupe de délivrance, une coupe de renouvellement, de ressourcement. Eh bien, on l'a compris à chaque fois, toutes les fois, il s'agit de quelque chose de nouveau, pleinement renouvellement, saisi par et dans la foi qui restaure. Ce n'est pas un geste, ce n'est pas une démarche superstitieuse ou de protection ou d'autre chose. Non, il s'agit tout simplement que c'est par la foi, dans la foi, et cela va restaurer, va irradier toutes les dimensions de l'être, le corps, l'âme et l'esprit. Quand il est dit à un moment donné, c'est dans ces meurtrissures que nous sommes guéris, nous pouvons au moment de la Sainte Cène saisir la guérison lorsque nous sommes malades. Sur le plan peut-être de nos difficultés au niveau de nos troubles, au niveau de l'âme, eh bien là il y a non seulement une guérison, un rétablissement, mais il y a également une délivrance, où là l'étreinte de toutes les chaînes, de tous les tourments, de toutes les misères, les angoisses, le stress, la dépression, eh bien, peut être priée, nous pouvons en être délivrés, dont les conséquences infinies sont non plus le jugement, ce n'est plus l'esclavage, mais c'est l'affranchissement, c'est la guérison physique ou morale, c'est la puissance de libération du péché, c'est l'espérance de la gloire. Quand il nous est dit qu'il n'y a plus aujourd'hui de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Je suis maintenant passé au-delà de la punition et de la condamnation parce que j'ai mis ma confiance en Jésus. Force et réconfort dans l'épreuve, certitude dans l'indéfectible fidélité de Dieu et de son amour invariable. Quand il nous est dit que rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. On comprend que le repas de Sainte-Cène est créé et demeure le point central où les enfants de Dieu puisent leur force, la force de leur foi et de leur vie. La scène n'a jamais été sacrementielle. Elle n'a aucune vertu d'opus operatum. Chacun y est invité après examen de conscience. Et le quatrième point, sur lequel je termine maintenant, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, il persévérait dans la communion fraternelle, il persévérait dans le repas de Sainte-Cène, mais il persévérait aussi dans les prières, à savoir que l'enseignement, la fraternité, communion fraternelle, l'unité des hommes et des femmes qui croient et pensent la même chose, ce mémorial dont nous avons parlé il y a un instant, d'un Dieu, d'un chef vivant et tout-puissant, mais que serait tout cela si ce n'était articulé par une relation verticale où les demandes et besoins venant d'en bas n'étaient entendus et exaucés d'en haut? La prière, c'est la respiration de l'âme. La prière, c'est lever notre cœur, élever notre âme en haut. Et c'est d'en haut que viennent les exaucements. La prière oblige à lever les yeux vers le ciel, à attendre tout du ciel, parce qu'il est des situations dépouillées de tout autre moyen de secours. D'en bas, il n'y a que la réponse du ciel qui soit, et elle sera toujours la meilleure, parce qu'elle est parfaite. Quand Dieu exauce, il n'exauce pas à moitié, ni partiellement, mais il exauce totalement. Jésus a senti la nécessité également de prier. Pourtant, il est le Fils de Dieu, il est Dieu lui-même, il a senti la nécessité de prier. À plus forte raison, nous aussi. Dans l'Église première, l'Église primitive, l'intensité de l'intercession était une réalité quotidienne. On pourrait peut-être parler de cette prière des premiers chrétiens, de l'ossature, de l'arsenal offensif et défensif de l'Église, en effet, du premier siècle, face à l'hostilité du monde d'alors comme le monde d'aujourd'hui, un monde invisible, un monde sournois, un monde qui est là, appesanti dans le mal, un monde opposant, et dans la tourmente, pour la délivrance d'hommes de Dieu, pour la pleine efficacité de l'Évangile, nous avons toutes sortes de textes qui nous montrent et qui nous livrent des promesses de grâce, des promesses de secours. Mais il faut le demander. Plus une Église prie, davantage elle sent le besoin de prier. Et aussi, elle se renouvelle par l'exercice qui va secouer ses ankyloses. Et moins elle prie, plus elle s'atrophie, elle perd peu à peu la conscience de son rôle, de ses propres besoins spirituel et ceux du monde. Et c'est vrai que nous avons besoin d'en prendre conscience, comme il est dit dans l'église de dans l'Apocalypse, l'église d'Éphèse. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Et une des raisons de l'abandon de cette flamme, de ce feu, de ce premier amour, c'est la cessation de la prière. Que dire en résumé des quatre traits mentionnés, sinon que le fondement et l'enseignement, et qu'en vertu de celui-ci, de cet enseignement qui nous est livré par les Écritures, les hommes et les femmes que l'on appelle des chrétiens, qui l'ont accepté et qui l'ont reconnu, se considéraient comme nous devons nous-mêmes nous considérer, comme un peuple, mieux une famille, où nous pouvons dire que nous avons un père, que nous avons des frères et des sœurs, et que nous sommes unis dans l'amour les uns et les autres, et que nous sommes rassasiés et abreuvés par une table en effet emblématique d'une communion spirituelle avec celui qui s'est donné à la mort pour ressusciter et dont la respiration est la prière, l'oxygène de la vie, cherché au ciel, tout cela est dans un lien d'amour à la seule condition, c'est-à-dire de persévérer. Alors voilà que Dieu nous donne sa grâce, qu'il nous donne sa compréhension, celle de son esprit, et que nous puissions être renouvelés dans notre conception de l'Église aujourd'hui. L'Église, elle n'est pas faite de traditions, d'événementiels, toutes sortes de choses, mais elle est faite par ces trois éléments constitutifs que nous avons lus, quand il est, et je le rappelle une dernière fois, il persévérait dans l'enseignement, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Et le résultat, naturellement, que l'on peut attendre si nous voulons voir en effet un souffle de l'Esprit sur nos communautés, sur nos églises, comme c'était dans le temps de la première communauté, il nous est dit, et le Seigneur ajoutait chaque jour ceux qui étaient sauvés, ajoutait chaque jour à l'Église. Alors que Dieu nous bénisse, que Dieu nous encourage. Faisons des progrès dans le goût de la lecture de la parole de Dieu. Faisons des progrès au niveau, eh bien là, de cette communion fraternelle. Faisons des progrès également autour de la signification et le sens profond de ce qui nous est donné autour du repas de Sainte-Cène, parce que c'est une nourriture spirituelle pour nos âmes. Et puis faisons des progrès, parce qu'il n'y a rien de plus merveilleux et formidable d'avoir cette relation d'en bas vers le haut, c'est-à-dire la prière. Et la prière peut se décliner sur l'intercession, sur la supplication, sur des requêtes, toutes sortes de choses. Elle nous conduit à l'adoration, elle nous conduit tout simplement à ouvrir les portes du ciel et nous d'en recevoir toutes les bénédictions et l'exaucement. Alors, merci Seigneur, que Dieu vous bénisse et à bientôt de se retrouver sur notre site, la Bible Espoir, tout simplement la cale aux mille trésors, ou alors également sur YouTube, hein, et puis sur l'écriture en majuscule, il y a à peu près, je crois, près de 800 messages qui sont à votre disposition, soit en vidéo, en audio, et aussi livrés à la lecture. Merci à tous, et à bientôt.